Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent. Allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu.
Devant ce mystère de l'Eucharistie, nous sommes comme devant une immense montagne. Nous nous sentons tellement pauvres et démunis devant un tel mystère. Ce mystère qui est central dans notre vie chrétienne, central dans la vie de l'Église, central pour la vie du monde. J'essaie quand même d'en tirer quelques mots pour renouveler notre manière de le regarder, notre manière de le vivre. Jésus prit du pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Ce pain, c'est d'abord le pain qui est la nourriture fondamentale, la nourriture essentielle, la nourriture qui est, comme on le redit chaque fois dans l'offertoire, fruit de la terre et du travail des hommes. Dieu, au commencement, avait donné à l'homme la terre en héritage, la création à l'homme, c'est-à-dire à l'être humain, la personne humaine, l'homme et la femme, pour que l'homme et la femme puissent, en partageant avec Dieu les fruits de cette création, en vivre et en vivre en paix. Mais au lieu de coopérer à l'œuvre de Dieu, en réservant à Dieu la part qui lui revenait, l'homme a cherché à exploiter la nature, exploiter la création, qui s'est retourné contre lui. C'est notre grande angoisse aujourd'hui, la grande angoisse de notre temps. L'homme sent bien qu'il a déclenché quelque chose qu'il est incapable de remettre à l'endroit. Il a déclenché quelque chose qui est un désordre immense dans la création, qui nous menace au lieu de nous faire vivre. Ce pain que Jésus prend pour l'offrir à son Père, puis à ses apôtres, c'est le pain qui est aussi le pain azim, le pain de la Pâque, le pain qui commémore ce passage des Hébreux à travers la mer Rouge, la libération essentielle qui est le grand point de départ de la communauté du peuple. Le peuple se rappelle chaque année ce moment où Dieu, à main forte et à bras étendus, l'a libéré de l'esclavage d'Égypte. Et ils ont mangé à la hâte l'agneau grillé au feu et le pain azim, le pain qui n'avait pas pris le temps de lever, parce que c'était le pain de la route qu'il fallait manger en tenue de service, en tenue de route. Ce pain rappelle aussi la manne qui a nourri le peuple dans le désert pendant 40 ans. La manne qui est la parole de Dieu qui vient du ciel, qui tombe du ciel, qui est donnée aux hommes gratuitement sans que l'homme n'intervienne, sinon en ramassant ce que Dieu lui donne. Jésus prit du vin, dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples. Ce vin que Jésus offre à l'homme, à ses apôtres, c'est le vin qui est comme pour le pain, le fruit de la vigne et du travail de l'homme. C'est le vin qui est la joie, le signe de la joie, le signe de l'abondance, le signe de la réjouissance. Mais c'est devenu aussi pour Israël, bien plus qu'une nourriture ou une boisson, c'est devenu la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction qui signifie déjà l'alliance avec celui qui nous fera vivre éternellement dans sa beauté, dans sa grandeur, dans la béatitude éternelle. Avec Jésus, dans l'Évangile, le pain et le vin ont pris des significations nouvelles. Par la multiplication des pains, Jésus a montré que cette nourriture était donnée en abondance, comme la création, elle est donnée sans compter, elle est donnée en se multipliant. Plus on est, plus elle se multiplie, gratuitement, par un don généreux de Dieu. De même, le vin est devenu, aux noces de Cana, le vin de l'alliance nouvelle, le vin de cette alliance nuptiale entre Dieu et son peuple, mais désormais aussi entre Dieu et chacune des personnes qui constituent le peuple. Comme dit saint Pierre dans son épître, nous sommes tous des pierres vivantes, et nous sommes pierres vivantes, un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres, dit saint Paul, mais nous avons tous part à cette coupe de bénédiction qui devient le signe de Dieu époux, de l'Église épouse. Alors de fait, cette nourriture prend une nouvelle dimension, une nouvelle signification. Cette nourriture devient plus essentielle que toutes. Ce breuvage devient plus important que tous, parce que cette nourriture est celle qui donne la vie, comme la parole donne la vie. Ce breuvage, c'est le vin de l'Alliance qui scelle notre unité en Dieu, qui scelle notre union à Dieu. Et vient ce soir, ce dernier soir, où Jésus célèbre l'Eucharistie pour la première fois, institue l'Eucharistie au milieu de ses apôtres. Le mystère devient immense, parce que le pain et le vin ne sont plus seulement du pain ou du vin, ils deviennent réellement corps de Jésus, sang de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'Église l'affirme, l'Église le croit, les chrétiens le croient. De tout leur cœur, c'est la foi. Ce pain est réellement, en vérité, le corps de Jésus. Ce vin est réellement le sang de Jésus qui nous est donné à manger et à boire. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. La première fois que Jésus a prononcé ces paroles ont paru folles, trop dures même. Les disciples qui suivaient Jésus jusqu'alors l'ont quitté. Cette parole est trop dure, nous ne pouvons pas l'entendre. Il est devenu fou. Comment peut-on donner sa chair à manger ? Et le Christ s'était retourné vers ses apôtres. Voulez-vous me quitter, vous aussi ? Et Pierre a vu cette parole prophétique si forte, tu as les paroles de la vie éternelle. Sans comprendre encore de quoi il s'agissait, Pierre comprenait sous le souffle de l'Esprit-Saint qu'il s'agissait d'une parole essentielle, une parole de vie éternelle. Alors l'Eucharistie pour nous est d'abord l'action de grâce, la louange au Père. Ce que l'homme avait refusé de faire au début, au commencement, au moment où il a péché, quand l'homme a refusé d'offrir les fruits de la création à Dieu pour se les réserver pour lui tout seul. Jésus, lui, comme le vrai Fils, le nouvel Adam, offre le pain d'action de grâce. Il offre à son Père la louange en lui offrant le pain. C'est ce que nous ferons symboliquement tout à l'heure dans l'offertoire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Ce pain d'action de grâce, il est aussi le mémorial sacrificiel du Christ et de son corps. Le Christ s'offre lui-même. Dans tout l'Ancien Testament, dans la loi ancienne, c'est le prêtre qui offrait le sacrifice à Dieu selon des règles très précises. Au temple, tout était réglé au millimètre. Mais désormais, le seul prêtre, c'est le Christ. Désormais, le temple, c'est son corps à lui. Il est à la fois, comme on le chante dans la préface souvent, il est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. C'est lui qui s'offre lui-même. Il l'avait dit par ses prophètes, mais on n'avait pas compris encore, et Jésus le redira lui-même. Ce n'est pas le sacrifice que je veux, mais c'est la miséricorde. Le sacrifice, désormais, ne vaut plus rien s'il n'est pas objet de miséricorde, s'il n'est pas signe de miséricorde. C'est-à-dire le sacrifice change de signification. Le sacrifice n'est plus quelque chose pour apaiser la colère de Dieu ou pour faire alliance avec Dieu. Le sacrifice est d'abord don de Dieu, don d'amour, don de miséricorde. Il est pour les pécheurs, il est pour les pauvres, il est pour les malades. Je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et ce sacrifice est enfin la présence du Christ par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude, la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chaque fois que nous célébrons désormais l'Eucharistie, non pas, comme on le dit souvent et comme on l'entend, nous renouvelons le sacrifice du Christ, mais nous le rendons présent. C'est-à-dire, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est comme si on ouvrait une fenêtre dans le ciel pour voir le sacrifice éternel du Fils envers le Père. Éternellement, avant même la création du monde, le Fils s'offre à son Père. Le Père se donne tout entier au Fils, le Fils se redonne tout entier au Père. Sur la terre, dans son corps humain, le Christ s'offre d'une manière sanglante à cause de nos péchés. Il est victime d'amour, victime de miséricorde. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes en vérité devant cet unique sacrifice, non pas renouvelé plusieurs fois, cet unique sacrifice célébré une fois pour toutes, mais qui, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, sera présent au milieu de nous comme le signe réel, le signe efficace de l'amour de Dieu pour nous. C'est dire l'amour, le respect que nous devons avoir pour l'Eucharistie. Le grand drame, le grand danger pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de nous habituer. Nous ne faisons plus attention à ce que nous faisons. Nous allons communier le dimanche matin comme si c'était normal, comme si on faisait quelque chose de normal, d'habituel. Il faudrait que nous nous approchions de l'Eucharistie avec une crainte sacrée, comme on dit, c'est-à-dire avec un cœur de pauvre, prosterné devant l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle, au moment où le prêtre consacre le pain et le vin, à la place même du Christ, nous nous prosternons, parce que nous reconnaissons la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Il est là, disait le curé d'Ars à ses enfants au catéchisme, en montrant le tabernacle. Il est là. Chut. il est là. Comme on entre dans une église parfois, comme des touristes, sans regarder, sans faire attention, alors qu'il est là en vrai, il est là vraiment présent. Comme nous communions parfois sans aucune préparation, en présentant nos mains souillées, nos mains sales, nos cœurs qui ne sont pas prêts, nos cœurs qui sont encore pleins de distractions, de choses, alors que nous devrions au moins préparer un peu nos cœurs à le recevoir, préparer nos corps à le recevoir. Nous recevons le Dieu vivant. Quand j'étais petit, on chantait ça. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Comme nous devrions renouveler, demander à l'Esprit-Saint de renouveler en nous cette joie de la communion eucharistique, cette joie de la présence eucharistique devant laquelle nous nous prosternons. Mais c'est une présence qui ne nous écrase pas, c'est une présence au contraire qui nous relève. C'est la miséricorde infinie qui nous pardonne et qui nous rend dignes d'un tel amour. Cette Eucharistie nous rend responsables les uns des autres. Nous avons bu à la même coupe, nous avons partagé le même pain. Nous sommes liés par la charité, liés par les liens d'amour qui est Dieu lui-même. Nous sommes plus liés les uns aux autres par l'Eucharistie que par les liens du sang dans la famille. Toi qui communies à côté de moi, tu es réellement mon frère, tu es réellement ma sœur. Et quand, avant de communier, nous nous donnons la paix, ce n'est pas un geste de mondanité pour nous dire bonjour et pour essayer de faire un effort pour sourire à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pour nous transmettre en vérité la paix qui vient de Dieu, la paix même qui est Dieu, la paix qui est le Christ, qui se donne en nourriture. Après avoir offert le Christ à son Père, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles dans l'unité de l'Esprit-Saint, alors le Père nous redonne cette nourriture et la partage entre nous pour que nous puissions communier à cet amour unique. Oui, l'Eucharistie nous engage, elle engage en profondeur notre vie. Tâchons d'y réfléchir, d'y repenser et de refaire un acte de foi. Regardons Marie enfin. Comme d'habitude, c'est elle qui est notre modèle, c'est elle qui nous montre la manière de communier. Je pense à la façon dont Marie a reçu l'Eucharistie. Elle a pris conscience qu'elle recevait le corps et le sang de son propre Fils, c'est-à-dire quelque chose de sa chair elle-même, qu'elle recevait en elle comme source de vie. Ne cherchons pas à comprendre. Comprenons, oui, la cohérence de ce mystère. Comprenons, oui, l'amour dont Dieu nous a aimés. Mais nous ne pourrons jamais comprendre comment ce pain peut se transformer en corps de Jésus, comment ce vin peut se transformer en sang de Jésus, mais nous le croyons. Nous le croyons de tout notre être, nous le croyons de toute notre foi. La foi est un don de Dieu que nous demandons, que nous supplions de recevoir. En tenant la main de la Vierge Marie comme des petits-enfants qui vont communier avec leur mère, communions aujourd'hui comme des enfants, comme si c'était la première fois. Refaisons aujourd'hui notre première communion avec la même ferveur, avec le même amour, en admirant et en priant pour tous les enfants qui, ces jours-ci, font eux-mêmes leur première communion. Amen.